L'œuf était déjà levé et parti quand Dunk se réveilla, le soleil matinal en pleine figure. Bonté divine, comment pouvait-il être aussi brûlant d'aussi bonne heure? Il se dressa sur son séant, s'étira en bâillant, puis se jucha sur ses pieds et descendit en titubant de sommeil jusqu'au puits. Alluma une grosse chandelle de suif, puis après s'être sommairement éclaboussé le museau d'eau froide, enfila ses vêtements. Lorsqu'il émergea dans la fournaise au dehors, Tonnerre patientait près de l'écurie, scellé et harnaché. L'œuf attendait aussi en compagnie de son maître de mulet. Le mioche avait chaussé ses bottes. Il avait pour une fois l'allure d'un écuyer digne de ce nom, sanglé qu'il était dans un beau pourpoint à carreaux verts et or, et moulé dans des chausses de lainage blanc. Les chausses étaient déchirées aux fesses, mais la femme de Sam Lavoussure me les a ravaudées, annonça-t-il. C'était des affaires d'Adam, dit Sir Eustace, tout en extrayant de sa stalle son hongre gris. Un lion échiqueté adornait le manteau de soie effiloché qui flottait aux épaules du vieillard. Le doublet s'est un tantinet moisi dans la malle, mais il devrait tout de même aller. Un chevalier fait meilleure impression quand un écuyer l'escorte. Aussi ai-je décidé que l'œuf devait vous accompagner à Froide Douve. Embabouiné par un freluquet de 10 ans, Dunk lorgna l'œuf et en silence articula les mots « taloche à l'oreille ». Le gosse s'épanouit. « J'ai quelque chose aussi pour vous, Sir Duncan. Approchez. » Sir Eustace exhiba un manteau qu'il secoua d'un geste théâtral pour le déployer. La laine blanche en était bordée de carreaux de satin vert et de brocart d'or. Un manteau de laine était bien la dernière chose dont Dunk eut besoin par une chaleur pareille. Mais après que Sir Eustace le lui eut drapé aux épaules, une telle fierté se lut sur sa physionomie que le bénéficiaire se trouva dans l'incapacité de refuser. « Je vous remercie, messire. »«
Il vous sied à merveille. Que ne puis-je, hélas, vous offrir davantage ?»
Sa moustache se gondola.
« J'ai expédié Sam Lavoussure, fouillé à la cave parmi les effets de mes fils. Mais Edwin et Harold étaient plus petits, plus étroits du buste et beaucoup plus courts de la jambe. Rien de ce qu'ils ont laissé ne saurait vous aller. C'est navrant à dire.
Le manteau suffit bien assez, messire. Je ne lui infligerai pas d'opprobre.
Je n'en doute point. »
Il gratifia son cheval d'un tapotement.
« Je me suis mis en tête de chevaucher avec vous un bout de chemin, si vous n'y voyez pas d'objection. »«
Aucune, messire. » Haut perché sur Mestre, l'œuf prit la tête pour descendre la colline.
« Il lui faut absolument porter ce chapeau de paille à vachy ?»
demanda Sir Eustace à Dunk.
« Ça lui donne une allure, un brin ridicule, ne trouvez-vous pas ?»
Pas aussi ridicule que quand son crâne se met à peler, messire. Même à cette heure où le soleil n'avait guère dépassé la ligne d'horizon, il faisait affreusement chaud. Dans l'après-midi, les selles seront assez brûlantes pour nous faire cloquer le derrière, se dit Dunk. Pour les gants que put actuellement passer l'œuf dans les atours du garçon défunt, il ne manquerait pas d'avoir une bille d'œuf dure à la tombée du jour. Dunk aurait au moins le recours de se changer. Sa sacoche de sel renfermait sa bonne tunique, et il avait sur le dos sa vieille verdâtre.
« Nous allons suivre l'itinéraire de l'Ouest, » annonça Sir Eustace. « On l'emprunte moins souvent depuis ces dernières années, mais c'est encore le plus direct pour se rendre de pied ferme à Froide Douve. »
Le chemin leur fit contourner la colline vers l'arrière, longer le bosquet de mûriers où la femme et les fils du vieux chevalier dormaient de leur dernier sommeil.
« Ils adoraient cueillir des mûres dans ce coin, mes garçons. Quand ils étaient tout petits, il me suffisait de les voir revenir le museau barbouillé, poisseux, et les bras couverts d'égratignures pour savoir exactement d'où ils provenaient.
Il sourit d'un air attendri. « Votre œuf me rappelle mon Adam. C'est courageux pour un enfant si jeune. Adam s'efforçait de protéger son frère Harold, qui était blessé, quand la mêlée les a submergés. Un riverain au bouclier frappé de six glands lui a emporté le bras d'un coup de hache. Le gris chagrin de ses prunelles chercha le regard de Dunk. « Ce vieux maître que tu avais, le chevalier de l'arbre sous, il s'est battu lors de la rébellion feu noir ?»«
Oui, messire, avant qu'il ne me prenne à son service. »
À cette époque-là, Dunk ne devait pas avoir plus de 3 ou 4 ans, et il courait à demi-nu les venelles de cupucier, moins en marmot qu'en chaton sauvage. Il était pour le dragon rouge ou pour le dragon noir?
Rouge ou noir était une question dangereuse, même aujourd'hui. Depuis le temps d'Aegon le Conquérant, les armes de la maison Targaryen avaient comporté un dragon tricéphale, rouge sur noir. Daemon le prétendant avait inversé ses couleurs sur ses bannières personnelles, ainsi que le faisaient nombre de bâtards. « Sir Eustace est mon suzerain, » se remémora Dunk. « Il est en droit de poser la question. »
« Il combattait sous la bannière de Lord Fangé, messire. » « Frété vert sur champ d'or, un vert clair onduleux. Hein. »«
Cela se pourrait, messire. »
« L'œuf risque de savoir, lui. »
Le gamin était capable de réciter par cœur les armoiries de la moitié des chevaliers de Westeros.
Lord Fangé était un loyaliste notoire. Le roi d'Aéron fit de lui sa main, juste avant la bataille.
Burpuis s'était montré si lamentable dans l'exercice de ses fonctions que bien des gens mettaient en doute sa féauté. Tandis que Lord Fangé s'était distingué comme un inconditionnel de la première heure.
Sir Harlan se trouvait à ses côtés lorsqu'il tomba, abattu par un lord au bouclier frappé de 3 châteaux.
Main brave périr en ce jour, d'un bord comme de l'autre. L'herbe n'était pas du tout rouge avant la bataille. Est-ce que ton Sir Harlan t'a conté cela?
Sir Harlan a toujours manifesté une répugnance invincible à parler de cette bataille. Son écuyer y avait également péri. Il s'appelait Roger de l'Arbre Sous. Il était le fils de la sœur de Sir Harlan. Du simple fait d'en avoir prononcé le nom, Dunk se sentit vaguement coupable. Je lui ai volé sa place.
Seuls les princes et les très grands seigneurs avaient les moyens d'entretenir 2 écuyers. Si Aegon l'Indigne avait donné son épée non point à son Daemon de bâtard, mais à son héritier légitime, Daeron, peut-être que la rébellion feu noir n'aurait jamais eu lieu, et Roger de l'Arbre Sous serait peut-être toujours en vie.
« Il serait chevalier quelque part, » se dit Dunk. « Un chevalier plus authentique que je ne le suis. J'aurais finalement dû connaître la potence ou me retrouver embarqué pour la garde de nuit où j'aurais arpenté le mur jusqu'à mon dernier souffle. »
« Une grande bataille est une chose effroyable, » reprit le vieux chevalier. « Mais au milieu du sang et du carnage, il y a parfois aussi de la beauté. Une beauté à vous briser le cœur. Je n'oublierai jamais de quoi le soleil avait l'air lorsqu'il se coucha sur le champ d'herbe rouge. 10 000 hommes y avaient trouvé la mort. L'atmosphère était saturée de gémissements et de lamentations. » Mais le ciel qui, sur nos têtes, virait à l'or, au pourpre et à l'orange, était d'une telle splendeur que j'en ai pleuré de me dire que mes fils ne le contempleraient jamais.
Il soupira.
La partie avait été beaucoup plus serrée qu'on ne vous le fait à croire actuellement. N'eût été freux sanglant.
J'avais toujours entendu dire que c'était Baelor Brise-Lance qui avait remporté la victoire, suggéra Dunk. Lui et le prince Maïkar.
Le marteau et l'enclume?
La moustache du vieillard se tordit.
Les chanteurs en nommaient tant et plus. Daemon fut le guerrier par excellence ce jour-là. Personne n'était capable de lui tenir tête. Il réduisit en pièces l'avant-garde de Lord Arryn et tua les chevaliers de Neuf Étoiles et Will Van Bois le Farouche, avant d'en venir aux prises avec Sir Gawain Corbray de la garde royale. On les vit près d'une heure danser ensemble sur leurs chevaux, tourbillonner, se tourner autour et se cingler de coups tandis que des hommes mouraient à la ronde. On raconte que chaque fois que se croisaient l'acier de feu noir et celui de dame affliction, l'éclat s'en percevait dans un rayon d'une lieue. Cela faisait, dit-on, mi-chanson, mi-cri. Mais lorsqu'à la fin, dame affliction se mit à fléchir, feu noir fendit de part en part le home de Sir Gawain, qui perdit la vue ainsi que son sang. Daemon mit pied à terre pour veiller à ce que son adversaire démonté ne se fasse pas piétiner, puis il le fit emporter par Rougeboutoir auprès des maîtres de l'arrière. Et ce fut là son erreur fatale, car les dents de Freux avaient conquis le fait de Crête en pleurs, et Freux sanglant aperçut l'étendard royal de son demi-frère qui flottait à quelque 300 pas de là, sur Daemon et ses fils. Il tua tout d'abord Aegon, l'aîné des jumeaux, car il savait qu'en dépit des traits blancs qui pleuvaient à verse, Daemon ne consentirait jamais à abandonner le garçon tant que lui resterait un rien de chaleur dans le corps. Et il n'en fit effectivement rien, quoiqu'il fût percé de 7 flèches, décochées autant par des sorcelleries que par l'arc de Freux sanglant. Mais comme le jeune Aemon s'était emparé de feu noir quand l'épée s'échappa des doigts de son père agonisant, Freux sanglant le tua lui aussi, le cadet des jumeaux. Ainsi périrent le dragon noir et ses fils. Il s'en est passé tant et plus ensuite, je le sais bien. J'en ai vu des miettes de mes propres yeux, les rebelles en fuite, et Gracier retournant la déroute et menant sa charge insensée, son propre duel avec Freux sanglant qui ne survint qu'après celui qui avait opposé Daemon à Gawain Corbray, le coup de boutoir du prince Baylor défonçant les arrières de la rébellion, les Dorniens hurlant tous à la fois et faisant fuser des nuées de lances. Mais à la fin de la journée, cela n'avait plus aucune importance. La disparition de Daemon avait signifié la fin de la guerre. Une partie tellement serrée. Si Daemon avait abandonné Gawain Corbray à son sort, en poussant son cheval par-dessus, il aurait pu rompre la gauche de Maécar, avant que Freux sanglant ne parvienne à s'emparer de la crête. La journée aurait alors appartenu au dragon noir, et, avec la mort de la main du roi, la route de Port-Réal aurait été grande ouverte devant eux. Daemon se serait éventuellement retrouvé installé sur le trône de fer avant que le prince Baylor ne parvienne à se présenter avec ses seigneurs de l'orage et ses Dorniens. Libre aux chanteurs de nous tanner encore et toujours avec leurs marteaux et leurs enclumes, sœur. Mais ce fut bien le parricide qui renversa la marée avec une flèche blanche et un sortilège noir. C'est aussi lui qui nous gouverne à présent, ne vous méprenez pas. Le roi Aerys est sa créature. Il n'y aurait rien de surprenant à apprendre que Freux sanglant avait ensorcelé sa majesté pour la plier à sa volonté. Pas étonnant que nous soyons maudits. Sir Eustace secoua la tête et tomba dans un mutisme lourd de rumination. Dunk se demanda jusqu'à quel point l'œuf avait entendu, mais il n'y avait pas moyen de l'interroger. « Combien Dieu, Lord Freux sanglant, possède-t-il » songea-t-il. L'atmosphère devenait déjà plus irrespirable. Même les mouches se sont volatilisées, remarqua Dunk. Les mouches ont plus de jugeotes que les chevaliers,
elles évitent le grand soleil. À froide douve, l'œuf et lui se verraient-il offrir l'hospitalité? Une bonne chope de brune, bien fraîche, ne demanderait qu'à trouver la descente.
Dunk était en train de s'abîmer complaisamment dans cette perspective quand il se ressouvint de ce que l'œuf lui avait rapporté, que la veuve rouge empoisonnait ses maris. Sa soif se dissipa instantanément. Il y avait des trucs 100 fois pires qu'un gosier sec.
Il fut un temps où la maison Osgry tenait toutes les terres maintes lieues à la ronde, de Nonain à l'est à Toit de l'Ose, poursuivit Sir Eustace. Froide Douve était à nous, ainsi que les monts Fer à Cheval, les grottes de Badering, les villages de Dosk, de Petit Dosk et de Fond de Niol, les deux côtés de Lac Feuillu. Des damoiselles Osgry épousaient des Florent, des Swan et des Tarbeck, même des Hightower et des Nerbosk.
La lisière du bois de Watt se voyait enfin. Dunk s'abrita les yeux d'une main et guigna vers la végétation. Il envia pour une fois le galurin flappi de l'œuf.
« Nous allons avoir un semblant d'ombre au moins, » se dit-il. Le bois de Watt s'étendait jadis tout du long jusqu'à Froide Douve, reprit Sir Eustace. Je ne me rappelle pas qui c'était ce Watt. Avant la conquête, on pouvait y lever des aurochs, cependant, ainsi que de gigantesques élans de 20 paumes et plus. Il s'y trouvait plus de daims rouges qu'aucun homme n'en pouvait abattre en toute une vie, car personne d'autre que le roi et le lion échiqueté n'était autorisé à chasser ici. Même du temps de mon père, il y avait des arbres sur les deux rives, mais les araignées ont déboisé l'autre bord afin d'y faire des pâturages pour leurs moutons, leurs vaches et leurs chevaux.
Un petit doigt de sueur lui dégoulinant le long de la poitrine, Dunk se surprit à désirer de toute son âme que son seigneur et maître garde le silence.
« Il fait trop chaud pour parler, il fait trop chaud pour chevaucher. Il y a juste qu'il fait foutrement trop chaud. »
Dans les bois, ils tombèrent sur le cadavre d'un énorme chat sauvage brun, grouillant d'asticots.
« Ah !» s'exclama l'œuf en faisant décrire à Mestre un large détour. « Ça pue pire que Sœur Bénisse !»
Sœur Eustace tira sur les rênes.
« Un chat sauvage J'ignorais qu'il en subsistait encore dans ces bois. Je voudrais bien savoir ce qu'il a tué. »
Constatant que personne ne répondait, il poursuivit.
« Je vais faire demi-tour ici. Vous n'avez qu'à continuer vers l'ouest et vous tomberez sur Froide Douve. » « Vous avez l'argent ?»
Dunk opina du bonnet.
« Bon, revenez avec mon eau, sœur. »
Le vieux chevalier s'éloigna au petit trot par le chemin qu'ils avaient suivi jusque-là.
L'œuf attendit qu'il eût disparu pour déclarer.
« J'ai réfléchi à la manière dont il faudrait vous adresser à Lady Tissier, sœur. Vous devriez la rallier à votre point de vue avec des compliments galants. »
Le petit semblait aussi frais et fringant dans sa tunique échiquetée que l'avait été Sœur Eustace dans son manteau.
Serais-je le seul et unique à suer ? Se demanda Dunk avant de reprendre. Des compliments galants.
Quelle sorte de compliments galants ?
Vous savez bien, sœur, lui dire à quel point vous la trouvez belle et gracieuse.
Dunk ne fut qu'à demi convaincu.
Elle a survécu à 4 maris, et elle doit être aussi âgée que Lady Vates. Si je m'aventure à vanter ses grâces et sa beauté, quand elle est vieille et couverte de verrues, elle me prendra pour un sacré menteur.
Mais vous n'avez qu'à trouver quelque chose de vrai à dire sur sa personne.
C'est ce que fait mon frère, Daéron.
Même les putes hideuses et décaties peuvent avoir de jolis cheveux,
ou des oreilles bien ourlées, il dit.
Des oreilles bien ourlées. Le scepticisme de Dunk ne faisait qu'empirer.
Ou des yeux charmants. Dites-lui que sa robe rehausse à ravir la teinte de ses prunelles. »
Il s'accorda un moment de méditation.
« À moins qu'elle n'ait qu'un seul œil, comme Lord Freusanglant.
« Madame, cette robe rehausse à ravir la teinte de votre prunelle. » Dunk avait entendu des chevaliers et de nobles damoiseaux débiter de semblables galanteries à d'autres dames. Il les confisait tout de même un tout petit peu plus. « Noble dame, cette robe est un enchantement. Elle rehausse à ravir la teinte de vos deux adorables prunelles. » Certaines des dames en question étaient des antiquités décharnées, ou bien de gros temps rougeaux, ou encore des mochetées toutes grêlées de petites véroles, mais elles portaient toutes des robes et avaient deux yeux, et pour autant que s'en souvint Dunk, elles s'étaient montrées tout à fait grisées par ses propos fleuris.
« Quelle adorable robe, madame! Elle rehausse à ravir l'adorable beauté de vos beaux yeux teintés. »
La vie d'un chevalier errant donne lieu à plus de simplicité, fit Dunk d'un ton morose. Si je lui dis ce qu'il ne faut pas dire, elle ne manquera pas de me coudre dans un sac de pierre et de me jeter dans sa douve.
Je doute qu'elle ait un sac aussi grand que ça, sœur, objecta l'œuf.
Nous pourrions utiliser ma botte secrète à la place.
Non, gronda Dunk, nous ne pourrions pas.
Lorsqu'ils émergèrent du bois de Watt, ils se retrouvèrent très en amont du barrage. L'eau avait suffisamment monté pour permettre à Dunk de prendre la fameuse baignade dont il avait si fort rêvé.
« Assez profonde pour noyer un homme, songea-t-il.
Sur le bord opposé, on avait entaillé la berge et creusé un fossé pour dévier une partie du courant vers l'ouest. Le fossé courait le long de la route et alimentait une myriade de rigoles qui sinuaient à travers les champs.
Une fois traversée la rivière, nous sommes au pouvoir de la veuve.
Dunk se demanda dans quel guépier il était en train de se fourrer. Il n'était jamais qu'un homme seul, avec un mouflet de 10 ans pour toute arrière-garde.
L'œuf s'éventa la figure. « Sœur, pourquoi sommes-nous arrêtés ?»«
Nous ne le sommes pas. »
Dunk donna des talons dans les flancs de sa monture et se jeta dans la rivière avec un énorme plouf. L'œuf suivit sur son mulet. L'eau s'éleva jusqu'au ventre de tonnerre avant de commencer à baisser de nouveau. Ils gravirent tout dégoulinant la rive de la veuve. Devant eux, la tranchée filait aussi droit qu'une lance, moirée de vert et d'or sous le soleil ardent.
Lorsqu'ils discernèrent les tours de Froide Douve au bout de plusieurs heures,
Dunk fit halte afin d'enfiler sa bonne tunique d'ornienne et de faire jouer sa longue rapière dans le fourreau. Il ne tenait pas à ce que la lame y reste collée s'il devait lui arriver de se trouver contraint à dégainer.
L'œuf donna lui-même une secousse à la poignée de sa dague, la mine solennelle sous son chapeau flasque.
Ils se remirent en chemin, côte à côte, Dunk sur son grand destrier, le mioche sur son mulet, la bannière os gris flottant plus ou moins en berne en haut de sa hampe.